bienvenue sur Bac FM. Nous sommes Mélusine et Clara, élèves de seconde à Raoul Folraud. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'effet Mathilda avec notre invitée Sandrine Goffinet, qui est chercheuse à l'Université de Bourgogne.
Bonjour. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ?
Bonjour, je m'appelle Sandrine Goffinet, donc je suis enseignante-chercheuse à l'Université de Bourgogne. Et j'enseigne la chimie et je fais de la recherche sur la chimie des matériaux de construction.
D'accord, merci beaucoup. À présent, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément en quoi consiste votre métier, les différentes missions, etc.
Alors en fait, pour la partie enseignement, j'enseigne donc à l'ESIREM, qui est une école d'ingénieurs, qui est une composante de l'Université de Bourgogne. Donc moi, j'enseigne dans ce qu'on appelle l'option matériaux. Donc je forme des ingénieurs qui vont, on va dire, être dans des entreprises ou dans des grands groupes et qui vont travailler sur tout ce qui est autour des matériaux, la fabrication, l'analyse, le choix des matériaux, etc. Dans ce cadre, moi, j'enseigne particulièrement tout ce qui va être chimie et tout ce qui va être aussi matériaux de construction. Alors, l'enseignement, ça représente à peu près, je dirais, entre un tiers et la moitié de mon temps, ça va dépendre des semaines. Et aussi, comme tous les enseignants-chercheurs de l'université, il y a une grosse part d'administratif. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de choses à gérer, des réunions, des étudiants, des dossiers à faire, etc. Et puis, il y a la partie recherche. Et donc, comme je l'ai dit, moi, j'ai une recherche qui est très appliquée parce que je travaille dans le milieu, même si c'est de la chimie, c'est quand même les matériaux de construction. Donc, je travaille beaucoup avec des sociétés privées du domaine du ciment et du béton.
D'accord. Et quelles études avez-vous réalisées pour faire cette profession ?
Moi, j'ai un parcours typiquement universitaire. On peut en avoir d'autres. Il y a des gens qui font aussi des écoles d'ingénieurs. Donc, j'ai un parcours universitaire et après mes 5 ans d'études universitaires, j'ai choisi de préparer une thèse de doctorat sur 3 ans. Et voilà, donc à l'issue de ce doctorat, j'ai postulé sur les postes d'enseignant-chercheur.
D'accord. Quelles sont les conditions de travail, les horaires, le lieu, etc. ?
Alors, c'est très variable. En fait, ce qui est imposé, c'est, on va dire, les heures d'enseignement parce que, voilà, globalement, on nous demande quand même nos contraintes, mais voilà, quand on a des cours qui ont lieu, la contrainte, c'est au moins d'aller aux cours, aux travaux pratiques, aux travaux dirigés, etc., d'aller au jury. Mais globalement, à part ça, on a quand même une grande liberté d'horaire. Après, moi, il y a des jours où j'arrive à 8h et je pars à 19h, et puis il y a des jours où j'arrive plus tard et je pars plus tôt parce que voilà, j'ai autre chose. Bon, dans la globalité, on a tendance, comme on aime bien notre métier, on a tendance à y passer beaucoup de temps. Mais un des avantages, c'est qu'on a quand même une grande liberté. Voilà. Même pareil, s'il y a une après-midi où j'ai pas cours, où j'ai pas de réunion particulière, je peux rester travailler chez moi. Voilà, je pourrais pas vraiment décrire une journée typique. Il n'y en a aucune qui se ressemble.
Très bien. Et selon vous, quelles sont les qualités et les compétences importantes pour faire ce métier ?
Je pense qu'il faut aimer travailler en équipe. Alors que ce soit pour l'enseignement, c'est ce qu'on appelle des équipes pédagogiques ou en recherche, parce qu'on fait rarement de la recherche tout seul. On travaille en équipe avec des étudiants. Voilà. Il faut aimer la communication, aussi bien en enseignement. Bien évidemment, on communique auprès des élèves et en recherche aussi, parce que globalement, la recherche qu'on fait, c'est pas pour la garder, donc c'est pour la communiquer. Alors, ça peut être de la communication orale ou de la communication écrite. On peut écrire des articles, des rapports, d'ouverture et puis de la rigueur, je pense, pour la recherche. Et faut aimer ce qu'on fait, je pense, comme tous les métiers.
D'accord, merci beaucoup. À présent, nous allons évoquer l'effet Mathilda. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler ?
Alors, en toute franchise, j'en avais un peu entendu parler, mais après que vous ayez pris contact, j'ai regardé un peu plus en détail quand même. Donc, on va dire que j'en avais entendu parler, mais c'est pas quelque chose, on va dire, dont on parle vraiment beaucoup et qui est très répandu.
Et donc maintenant, sauriez-vous nous l'expliquer ?
Alors, pour moi, l'effet Mathilda, c'est le fait que on est, alors je dis bien on est, parce que on en rediscutera, est-ce que c'est encore à l'heure actuelle, souvent, on va dire, retirer, on va dire, ou spolier les femmes, notamment scientifiques, de leurs résultats. Voilà. On considérait que ce qu'elles avaient fait tombait vite dans une communauté où, globalement, une autre personne se l'attribuait. S'attribuer les résultats, on va dire, des femmes chercheuses ou scientifiques. Et globalement, ben, elles n'étaient pas considérées pour le travail réalisé.
D'accord. Est-ce que, d'après ce que vous nous avez décrit, vous avez un exemple d'une personne ayant subi l'effet alors, Mathilda ?
Pas vraiment, en fait. C'est vrai que dans le passé, je pense, il y en a eu. Il y a des exemples au cours du XXe siècle qui sont assez connus, notamment sur les mathématiciennes qui ont permis de faire des calculs de trajectoires, de fusées, ce genre de choses, qui justement avaient quand même fait des grandes choses et on leur attribuait pas du tout le mérite. Moi, personnellement, dans les gens que je connais, ce que j'ai pu vivre autour de moi, je ne l'ai pas vraiment connu.
D'accord. Et malgré tout, selon vous, est-ce qu'il existe des solutions pour diminuer? Et si oui, lesquelles?
C'est compliqué comme question. Alors, c'est vrai, comme je n'ai pas eu trop à y faire face ou à le voir autour de moi, je ne me suis pas posé la question. Globalement, comment y remédier quand ça existe? Je ne saurais pas dire s'il faut mettre en place, on va dire, des comités, peut-être, auxquels les personnes concernées pourraient faire appel, qu'ils soient quand même... Voilà, des comités un peu exécutifs, scientifiques, auxquels les personnes qui se sentent spoliées ou pas reconnues sur quelque chose pourraient faire des recours, mais j'ai pas d'autre idée, en fait. Ou alors, il faudrait que ça vienne de tierces personnes qui se sentent vraiment concernées et qui fassent quelque chose. Je sais pas.
C'est vrai que c'était une question compliquée.
Voilà, après, pourquoi pas imaginer la mise en place de commissions spécifiques en sciences.
D'accord.
Nationales ou internationales. Hein.
D'accord, très bien. Est-ce qu'il existe des prix spécifiquement dédiés aux femmes scientifiques à l'heure actuelle?
Il y a des concours spécifiques pour les étudiantes.
D'accord.
Pour les femmes, il doit y avoir le prix de la femme scientifique de l'année, je crois, ce genre de choses qui existent. Je crois qu'il y a un prix Curie pour les femmes, il me semble aussi.
D'accord.
Alors ça, c'est au niveau national ou régional, si vous voulez. Mais je ne connais pas de prix, moi, internationaux. Alors peut-être qu'il en existe. Je sais qu'il y a le prix L'Oréal, tous les ans, qui récompense des femmes scientifiques. Celui-là, il est international.
D'accord. Et pour vous, à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a encore des inégalités entre les femmes et les hommes dans le monde des sciences ou plus du tout?
Il reste encore quelques inégalités dans certaines disciplines qui sont encore majoritairement masculines. Et j'ai de la chance, c'est que la chimie, par exemple, c'est pas le cas. Il y a énormément de femmes, donc globalement, je considère qu'il y a quand même une équité majeure entre les hommes et les femmes dans cette discipline. Après, pour moi, dans les sciences un peu plus dures, il y a moins de femmes. Et bah, comme toujours, quand il y a moins de femmes, bah, dans les commissions de recrutement, dans les commissions de sélection, dans les commissions de choix, bah, il y a moins de femmes. Et des fois, c'est un peu plus difficile pour elles de faire leur place. Alors par contre, pour moi, il y a une inégalité. Mais en fait, pour moi, l'inégalité, elle vient pas des sciences en elles-mêmes. Elle vient encore des mentalités, on va dire, sociales. C'est-à-dire que, je pense que vous le savez, hein, à l'heure actuelle, c'est encore démontré, c'est que les femmes font quand même, pour beaucoup, plus de, entre guillemets, de tâches, on va dire, familiales, ménagères, que les hommes, et que, bah, globalement, finalement, il peut y avoir des répercussions parce que, voilà, la femme se sera moins consacrée, à un moment T ou quelques heures en moins par jour à son métier et aura peut-être moins de chances d'avancement de carrière par rapport à des hommes. Mais globalement, je pense que si on résout ce problème social, ça résoudra peut-être pour bonne partie ce qui en découle au niveau des emplois scientifiques et de la reconnaissance scientifique.
D'accord. Merci beaucoup, Sandrine Goffinet, pour cet échange et de nous avoir donné de votre temps pour BAC FM.
Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses à vous et à tous ceux qui nous écoutent.
Merci beaucoup. L'émission touche maintenant à sa fin. Vous pouvez la retrouver en podcast très rapidement sur le site de la radio. Maintenant, le retour du son pop rock sur BAC FM.